Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer cette émission par le journal suivi de commentaires. Pour la rubrique suivante, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point. Le programme suivant, nous allons présenter le magazine culturel qui sera suivi par l'Indonésie en couleur. Et avant de terminer cette émission, nous allons présenter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le ministre de la Défense veut avoir l'attaché de la Défense permanent de l'Indonésie en Suède. Le Dubaï et la Russie peuvent devenir la nouvelle porte d'entrée des exportations. Le commandant de l'armée nationale indonésienne ou TNI invite les gens continuent à maintenir la tolérance. L'Indonésie et le Bangladesh renforcent la coopération bilatérale. L'anniversaire du corps militaire des femmes. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le ministre de la Défense, M. Riamizar Tiakudu, veut avoir l'attaché de la Défense permanent de l'Indonésie en Suède. De plus, l'Indonésie a coopéré de manière intensive dans le domaine de la Défense avec la Suède. L'existence de l'attaché de Défense permanent, selon Riamizar Tiakudu, facilite la coopération de Défense entre les deux pays. Riamizar Tiakudu au ministère de la Défense mardi a déclaré qu'en général, l'attaché de la Défense indonésienne en Suède, en Angleterre ou à Singapour. Pourtant, dans la coopération de défense établie par l'Indonésie et la Suède, il y a beaucoup de choses qui ont été discutées. L'une des choses importantes est le transfert technologique dans la fabrication de sous-marins et des avions de combat. Riamizar Tiakudu a affirmé à l'avenir, l'Indonésie devrait avoir un attaché de défense permanent en Suède qui a été discuté dans cette coopération et réalisé immédiatement. Le ministère du Commerce continue de chercher des nouvelles portes dans la commercialisation du produit national. Le Dubaï et la Russie peuvent devenir la nouvelle porte des exportations. Les deux pays sont adjacents à deux continents, tels que l'Asie et l'Europe. Le directeur général du développement de l'exportation nationale du ministère du Commerce, Arlinda, a déclaré mercredi que le potentiel des deux pays comme la porte d'entrée des produits indonésiens était très bon. La position géographique et le niveau économique stable fait des produits en provenance de l'Indonésie peuvent être vendus à travers ces pays. Selon Arlinda, aujourd'hui le Dubaï et la Russie absorbent des produits de la nourriture, des boissons, des meubles. Et en Russie, comme par exemple, il y a une maison de l'Indonésie qui est gérée directement par les entreprises locales. Le magasin qui est situé à Moscou achète des articles de l'Indonésie et ensuite ils sont distribués dans les magasins succursales en Russie, y compris qui est bordé par d'autres pays d'Asie. Le commandant en chef de TNI, le général Gatot Nurmantio, a déclaré que l'Indonésie était un pays religieux nationaliste, donc il faut maintenir la tolérance interreligieuse. En plus de maintenir un sentiment de paix, Il a également demandé au peuple indonésien à respecter les gens qui célèbrent la Noël et éviter incidents entre les résidents. Gatot Nurmantio a souligné mercredi à Jakarta de maintenir l'unité et l'intégrité était la chose principale à protéger l'intégrité de la République unitaire d'Indonésie. Le commandant de la TNI espère que tous les éléments de la communauté pouvaient maintenir l'ordre et la sécurité nationale. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. La coopération entre l'Indonésie et le Bangladesh ne concerne pas seulement les intérêts bilatéraux, mais elle est également importante pour traiter la situation des réfugiés dans la région, a déclaré la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, à Dhaka, au Bangladesh, après une rencontre bilatérale avec son homologue du Bangladesh, Abul Hassan Mahmoud Ali. Après avoir assisté à la retraite de l'ASEAN à Yangon lundi 19 décembre 2016, la ministre a tenu mardi une réunion bilatérale avec le ministre Abdul Hassan Mahmoud Ali à Dhaka. Les deux ministres des Affaires étrangères ont discuté des efforts de l'intensification de la coopération bilatérale, notamment dans le domaine du commerce et l'investissement. La ministre Retno Marsudi a déclaré que la transaction commerciale entre les deux pays avait atteint environ 1,4 milliard de dollars américains en 2015. Il y avait encore beaucoup de potentiel et de possibilités de coopération économique inexploitées. Par conséquent, selon elle, l'Indonésie doit promouvoir la diplomatie économique au Bangladesh. La formation de corps militaires des femmes ou COAT a été inspirée par les résultats de la lutte de l'héroïne indonésienne qui participe à défendre l'indépendance de l'Indonésie et les efforts de ses prédécesseurs pour gagner des progrès pour les femmes. Par conséquent, en 1959, le troisième assistant du personnel du chef d'état-major, le colonel Dr Sumarno, a transmis ses idées sur l'utilisation de la force militaire des femmes dans le domaine des tâches spécifiques qui ont besoin de minutie, la persévérance, la patience et les traits maternels qui sont devenus la nature des femmes pour mieux atteindre l'affiliation organisationnelle. Comme la réalisation de la mise en place de COAT, le décret en date de 21 décembre 1960 a été publié. Ainsi est né le Corps militaire des femmes, ou COAT. Bien que COAT ait été adopté le 21 décembre 1960, la journée de COAT est fixée le 22 décembre. Cette désignation est prévue pour le premier congrès de la femme, tenu le 22 décembre 1938, qui est devenu connu comme la fête des mères. La naissance de COAT devrait être la fierté des mères. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « La terreur se produit à nouveau en Indonésie ». Les actes de terrorisme ont lieu à nouveau et l'équipe spéciale anti-terrorisme au détachement 8-8, siège de la police de l'Indonésie hier, a trouvé la bombe dans une maison dans le sud de Tangerang. En plus des trois bombes qui déjà produites, la police a également trouvé du matériel de fabrication de bombes. Selon le plan, la bombe serait explosée à un poste de police dans la région de Serpong avant la Noël et Nouvel An. Le chef de la police de Jakarta, inspecteur général Muhammad Iriawan, a déclaré que l'équipe de la police avait réussi à faire exploser des bombes. Quatre terroristes présumés ont également été désactivés, donc trois ont été tués dans l'embuscade. L'inspecteur général Muhammad Iriawan a déclaré que les informations relatives à l'activité terroriste dans le sud de Tangerang est connue de suspects impliqués dans les attentats à Bekasi la semaine dernière. Au même jour, le détachement spécial antiterroriste a également arrêté les membres d'un réseau terroriste à Sibiru-Biru, la région d'Eli Serdang, la province de Sumatra du Nord. Un autre détachement 8-8 a également arrêté des terroristes présumés à Payakumbu, Sumatra Ouest, qui a aidé à acheter des matériaux liés aux actes terroristes. La police enquête toujours sur la bombe pour exploser à ce sujet. Le président Joko Widodo a apprécié le mouvement rapide de Densus 88 et la police associée à la découverte de la bombe active dans le sud de Tangerang. Le président invite le public à accroître la sensibilisation et la participation à la lutte contre le terrorisme. Selon le président, le terrorisme est aussi le problème dans des pays dans le monde, tels qu'en Turquie, Allemagne et dans plusieurs d'autres pays. Il est impossible que les terroristes présumés dans le sud de Tangerang aient des liens avec des réseaux terroristes internationaux. On espère qu'il y ait aussi l'augmentation de la coordination inter-institution. Cela est nécessaire pour prévenir le terrorisme. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 22 décembre 1928, le premier congrès des femmes indonésiennes tenu à Yogyakarta, et ce moment alors est désigné comme la fête des mères nationales. Les femmes indonésiennes de différentes ethnies, religions et races ont participé au congrès tenu à Yogyakarta le 22 décembre jusqu'au 25 décembre 1928. Le congrès a été assisté par 30 organisations de femmes de toute l'Indonésie et a décidé comme suit. 1. Envoyer un vote de défiance au gouvernement colonial pour augmenter l'école pour les filles. 2. Le gouvernement doit fournir des informations au moment du mariage ou la loi sur le mariage. 3. Donner les bourses aux étudiants qui ont la capacité d'apprendre, mais ils n'ont pas le coût de l'éducation. Cette agence est appelée Fonds d'études. 4. Établir des institutions, cours d'alphabétisation, cours de santé et activer les efforts visant à éradiquer le mariage des enfants. La date de l'exécution du congrès a été affectée comme la fête des mères. Le 22 décembre 1948, Syarifuddin Prawiranegara a dirigé la République d'Indonésie d'urgence à l'ouest de Sumatra. Après la capitale de la République d'Indonésie à Yogyakarta a été contrôlée par les Hollandais dans l'agression militaire néerlandaise de, les Pays-Bas ont diffusé quelquefois les nouvelles que la République d'Indonésie a été dissoute. En raison de ses leaders tels que Soekarno, Hatta et Syahrir avaient cédé et on a été arrêtés. Syarifuddin Prawiranegara et certains dirigeants de la République d'Indonésie ont organisé une réunion de Halaban le 22 décembre 1948. Lors de la réunion, il a été décidé de former le gouvernement d'urgence de la République d'Indonésie avec Syarifuddin Prawiranegara comme président en tant que également trois postes ministériel, à savoir le ministre de la Défense, le ministre de l'Information et le ministre des Affaires étrangères. Depuis le 22 décembre 1948, le gouvernement de la République d'Indonésie comme une administration de gouvernement urgent de la République d'Indonésie. Lors de la séance qui a eu lieu le 13 juillet 1949 entre le président Soekarno et le vice-président Hatta, Syarifuddin Prawiranegara a restitué son mandat officiellement, donc outre comme le vice-président, M. Hatta est aussi le premier ministre. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la mise au point intitulée Le développement à Riau dans le secteur des travailleurs. Actuellement, Riau possède beaucoup de travailleurs qui ont la compétence, mais pas complétée avec la certification. Ce fait est inquiétant le gouvernement provincial de Riau, notamment à l'ère de la communauté économique de l'ASEAN. Riau doit encourager le secteur économique et des autres secteurs concernés. Cela a été déclaré par le gouverneur de Riau, M. Arsha Juliandi Rahman, vendredi à Pekanbaru. Selon lui, pour résoudre cette question, on va établir une institution qui peut créer des mains d'œuvre étant compétents dans leur domaine et ont la certification. Il a la compétitivité au niveau international et local. Pour créer les mains d'œuvre compétents certifiés, le gouvernement de Riau a créé le Conseil de coordination pour la certification professionnelle, ou BKSP, composé des fonctionnaires provinciaux, des universitaires et aussi des organisations telles que APINDO, GAPENSI, la Chambre de commerce et d'industrie, ou KADIN, et d'autres organisations dirigées par Iwat Endri. La province de Riau établit le Conseil de coordination pour la certification professionnelle, ou BKSP. Le gouverneur Arshan Juliandi Rahman a souhaité que BKSP puisse travailler dur pour que le plan de créer le Conseil a été livré il y a 10 ans. Grâce au Conseil de coordination pour la certification professionnelle, chaque main d'œuvre va recevoir des formations. En outre, la formation sera également fournie aux élèves et aux étudiants de l'école professionnelle secondaire. On espère qu'ils sont compétents dans leur domaine et complétés avec la certification. Cela rend plus facile pour les diplômés de trouver un travail et en concurrence avec des travailleurs d'autres pays et régions. Le chef du département des travailleurs, transmigration et la population de la province de Riau, M. Rashidin Esha, qui est aussi le membre du Conseil de coordination pour la certification professionnelle, a insisté à l'Institut de la certification professionnelle, ou LSP, qui existe déjà pour coordonner avec BKSP. S'il n'y en a pas encore, BKSP encourage la naissance d'une autre agence de certification de la profession et la préparation des sites de tests de compétences. On espère que la jeune génération en âge de travailler sont en mesure de participer à la performance et la profession car elle a été certifiée. Chers amis, c'était la mise au point de La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Le ministre de la Défense, M. Ria Mizar-Triakudu, va avoir l'attaché de la Défense permanente de l'Indonésie en Suède. De plus, l'Indonésie a coopéré de manière intensive dans le domaine de la défense avec la Suède. L'existence de l'attaché de défense permanent, selon Ria Mizar-Triakudu, facilite la coopération de défense entre les deux pays. Ria Mizar-Triakudu, au ministère de la Défense, mardi, a déclaré qu'en général, l'attaché de la défense indonésienne en Suède, en Angleterre ou à Singapour. Pourtant, dans la coopération de défense établie par l'Indonésie et la Suède, il y a beaucoup de choses qui ont été discutées. L'une des choses importantes est le transfert technologique dans la fabrication de sous-marins et des avions de combat. Riami Jatriakudu a affirmé à l'avenir, l'Indonésie devrait avoir un attaché de défense permanent en Suède qui a été discuté dans cette coopération et réalisé immédiatement. Le ministère du Commerce continue de chercher des nouvelles portes dans la commercialisation du produit national. Le Dubaï et la Russie peuvent devenir la nouvelle porte des exportations. Les deux pays sont adjacents à deux continents, tels que l'Asie et l'Europe. Le directeur général du développement de l'exportation nationale du ministère du Commerce, Arlinda, a déclaré mercredi que le potentiel des deux pays comme la porte d'entrée des produits indonésiens était très bon. La position géographique et le niveau économique stable fait des produits en provenance de l'Indonésie peuvent être vendus à travers ces pays. Selon Arlinda, aujourd'hui le Dubaï et la Russie absorbent des produits de la nourriture, des boissons, des meubles. Et en Russie, comme par exemple, il y a une maison de l'Indonésie qui est gérée directement par les entreprises locales. Le magasin qui est situé à Moscou achète des articles de l'Indonésie et ensuite ils sont distribués dans les magasins succursales en Russie, y compris qui est bordé par d'autres pays d'Asie. Le commandant en chef de TNI, le général Gatot Nurmantio, a déclaré que l'Indonésie était un pays religieux nationaliste, donc il faut maintenir la tolérance interreligieuse. En plus de maintenir un sentiment de paix, il a également demandé au peuple indonésien à respecter les gens qui le célébraient la Noël et éviter incidents entre les résidents. Gatot Nurmantio a souligné mercredi à Jakarta de maintenir l'unité et l'intégrité était la chose principale à protéger l'intégrité de la République unitaire d'Indonésie. Le commandant de la TNI espère que tous les éléments de la communauté pouvaient maintenir l'ordre et la sécurité nationale. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. La coopération entre l'Indonésie et le Bangladesh ne concerne pas seulement les intérêts bilatéraux, mais elle est également importante pour traiter la situation des réfugiés dans la région, a déclaré la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Retno Marsudi, à Dhaka, au Bangladesh, après une rencontre bilatérale avec son homologue du Bangladesh, Abul Hassan Mahmoud Ali. Après avoir assisté à la retraite de l'ASEAN à Yangon lundi 19 décembre 2016, la ministre a tenu mardi une réunion bilatérale avec le ministre Abdul Hassan Mahmoud Ali à Dhaka. Les deux ministres des Affaires étrangères ont discuté des efforts de l'intensification de la coopération bilatérale, notamment dans le domaine du commerce et l'investissement. La ministre Retno Marsudi a déclaré que la transaction commerciale entre les deux pays avait atteint environ 1,4 milliard dollars américains en 2015. Il y avait encore beaucoup de potentiel et de possibilités de coopération économique inexploitées. Par conséquent, selon elle, l'Indonésie doit promouvoir la diplomatie économique au Bangladesh. La formation de corps militaires des femmes, ou COAT, a été inspirée par les résultats de la lutte de l'héroïne indonésienne qui participe à défendre l'indépendance de l'Indonésie et les efforts de ses prédécesseurs pour gagner des progrès pour les femmes. Par conséquent, en 1959, le troisième assistant du personnel du chef d'état-major, le colonel Dr. Sumarno, a transmis ses idées sur l'utilisation de la force militaire des femmes dans le domaine des tâches spécifiques qui ont besoin de minutie, la persévérance, la patience et les traits maternels qui sont devenus la nature des femmes pour mieux atteindre l'affiliation organisationnelle. Comme la réalisation de la mise en place de COAT, le décret en date de 21 décembre 1960 a été publié. Ainsi est né le corps militaire des femmes, ou QUAD. Bien que QUAD ait été adopté le 21 décembre 1960, la journée de QUAD est fixée le 22 décembre. Cette désignation est prévue pour le premier congrès de la femme, tenu le 22 décembre 1938, qui est devenu connu comme la fête des mères. La naissance de QUAD devrait être la fierté des mères. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis, vous écoutez la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel. Nous vous avons déjà présenté les beautés de divers sites touristiques en Indonésie, des plages, des montagnes, des cascades, des forêts, des parcs naturels ou bien des lacs. Et cette fois, c'est de nouveau un lac que nous allons vous présenter, le lac de Labuan Cermin, situé à l'intérieur de l'île de Bornéo. À l'intérieur de l'île de Kalimantan Oriental, il y a un lac nommé Labuan Cermin. Ce lac est particulier car il a de l'eau de mer au fond. Cela veut dire qu'il y a un débit d'eau salée seulement dans le fond du lac. L'eau y est très clair et on peut se mirer dans l'eau. Grâce à sa transparence comme du cristal, le fond du lac est visible d'en haut. La condition des eaux est encore bien conservée. Il y a une forêt qui entoure le lac avec des arbres verts et les eaux du lac sont si belles avec leur couleur turquoise. Dans le lac clair comme le vert, il y a la rencontre des deux eaux, l'eau salée et l'eau douce. La couche supérieure est douce tandis que la couche inférieure est salée. On peut voir à l'œil nu que l'eau salée et l'eau douce sont séparées par une couche comme des nuages blanchâtres. Cette couche est considérée comme un tas de micro-organismes en décomposition et coincée entre les deux types des eaux. Dans le lac, il y a deux types de créatures aquatiques. Les poissons d'eau douce qui vivent à la surface, tandis que les poissons d'eau de mer se trouvent sur le fond du lac. Les eaux salées peuvent être trouvées à une profondeur d'environ 2 mètres de la surface du lac. Les épaisseurs des couches des eaux douces et salées sont modifiées au rythme de marée. La visite au Labuan Cermin n'est pas complète si on ne sent pas directement la fraîcheur des eaux du lac. On peut y nager, même y faire du snorkeling. Lors de la baignade, vous pouvez boire des eaux du lac. Elle est très fraîche. Les eaux du lac peuvent être bues directement car elles ne contiennent pas de calcium. Si vous plongez, vous pouvez voir la beauté de la vie dans le lac. Il y a des plantes aquatiques, des poissons et aussi de belles pierres naturelles. Le lac de Labuan Cermin est situé dans le village de Biduk-Biduk, situé dans la préfecture de Berau, à Kalimantan Oriental. Pour y aller en voiture, cela vous prendra de 20 jusqu'à 24 heures par la route à partir de Samarinda, la capitale provinciale. Vous pouvez aussi aller par avion de l'aéroport de Sepinggan Balikpapan. la capitale de Kalimantan du Sud, jusqu'à l'aéroport de Tanjung Redep Berau, et ensuite continuer pendant environ 6 heures vers Dulac. Avant d'arriver à la voie Jermin, vous devrez marcher à travers une forêt très sauvage. Vous rencontrerez les arbres feuillus et des animaux sauvages comme les cygnes, les angliers, les oiseaux, les gibbons. Et autour du lac, il n'y a pas encore des hôtels de luxe, seulement les logements publics et quelques petits restaurants. Vous devez aussi apporter votre équipement de plongée car il n'y a pas encore de location. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci à tous et à bientôt.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir à tous, voici l'Indonésie en couleur, un segment régulier avec les différents aspects de l'Indonésie, y compris l'art et la culture, les coutumes et les traditions, la technologie et l'environnement et même le style de vie. L'édition d'aujourd'hui, nous vous informons sur l'électricité verte à partir de déchets de tofu. Chers auditeurs, en 2015, les réserves d'électricité en Indonésie ont été inquiétantes car à partir de 23 réseaux nationaux d'électricité, autant que 11 systèmes électriques sont dans un état de déficit. Cette situation est également aggravée par les conditions dans la longue saison sèche qui cause de nombreuses centrales hydroélectriques ne fonctionnent pas de manière optimale. Cela a conduit de nombreuses régions d'Indonésie en connu panne d'électricité. Cependant, les coupures de courant ne sont pas trouvées dans le village de Kalisari à Purwokerto, en province de Jawa Central. Parce que les gens dans ce village utilisent des moyens créatifs et peu coûteux de vivre une vie quotidienne avec le tofu. Comment est la façon? Serviteurs, les habitants du village Kalisari ont environ 150 affaires de tofu. La production de tofu qui contient la nutrition nécessite certainement beaucoup de coûts. Un kilogramme de tofu a besoin d'eau environ 33 litres ou 8,7 gallons. Lorsque le processus est terminé, l'eau résiduelle sera mise dans le système de drainage et se trouve dans la rivière plus proche et les champs de riz. En fait, les déchets du résultat du processus de soja qui devient les matières premières de tofu a encore une forte acidité. Il provoque un manque d'oxygène pour le poisson et son effet est le poisson mort. Pendant ce temps, les déchets de tofu aux champs de riz sont causés par le processus de putréfaction sera décomposé et produit du gaz méthane. Cette situation provoque un déséquilibre de la teneur en éléments nutritifs du sol. En conséquence, le riz pousse mais pousse ou n'a pas produit de graines. Les déchets liquides de tofu contiennent la matière organique et de nutriments. Un sous-produit de traitement des eaux usées de tofu qui est riche en matière organique en anaérobie et l'émergence de biogaz à cause de l'activité microbienne dans le réacteur de processeur de déchets. Le biogaz est un gaz inflammable qui est produit par le processus de la fermentation de matière organique par les bactéries anaérobies. Le contenu du biogaz est dominé par le CH4 ou méthane qui a le grand potentiel comme source d'énergie pour la cuisson, le chauffage ou la convertir en électricité qui est prête à être distribuée aux ménages des artisans pour la cuisson. Serviteurs, en utilisant l'électricité verte, les ménages des artisans au village Kalisari peuvent économiser environ 10 000 à 15 000 roupies par jour, qui est habituellement utilisé pour acheter combustible de poêle. L'autre objectif de l'utilisation des déchets de tofu est d'augmenter l'efficacité du processus de fabrication de tofu en diminuant l'utilisation des matières premières énergétiques par l'intermédiaire de la modification de fours fabriqués à partir du métal. L'utilisation du combustible lignon peut être réduite jusqu'à 50%, tandis que le taux d'utilisation des calories peut être augmenté jusqu'à la moitié. En 2015, l'Indonésie est incluse dans les 5 contributeurs principaux aux émissions de gaz à effet de serre. L'année dernière, l'Indonésie a déclaré de réduire les émissions de carbone de 29% en 2030 et est dans le processus de limiter la déforestation à grande échelle. Bien que le tofu ne surmonte pas encore les problèmes environnementaux dans le monde, un petit village Kalisari peut être la source d'inspiration qu'il y a beaucoup de façons pour produire l'énergie, même provenant de moyens et matériaux inattendus. Chers auditeurs, c'était l'Indonésie encore pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bon, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le programme musical pour jeudi. Et ce soir, vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz ou en streaming de www.voi.co.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Chers amis, pour cette édition, je présenterai des chansons populaires chantées par le défunt Bob William Tutupoli. On écoutera la première chanson de Bob Tutupoli intitulée Widuri.
Lalu engkau tersenyum, ku menyesal. menyesali diri. Tak tahu apakah arti senyummu. Dengan pelusan titik air mata, engkau bisikan deritu. Tersentuh aku dalam keharuan setelah tahu apa yang terjadi. Sekian lama dan kau hidup seorang diri. Ku ingin membalut luka hatimu.
Bob Tutupoli est né à Surabaya, Java Est, le 13 novembre 1939. Il aime chanter depuis son enfance. Il a commencé à chanter pour obtenir de l'argent de poche supplémentaire à l'adolescence. Il est chanteur indonésien célèbre aux années 70. Il a enregistré son premier album à Jakarta en 1965 avec Petty Sister. Il est célébré après avoir chanté une chanson Widuri créée par Slamet Adriadi. Voilà, tout à l'heure, vous avez écouté la première chanson de Widuri. Voilà, chanson très connue de Bob Tutupoli. Bob Tutupoli a également joué dans des films, en présentateur dans diverses stations de télévision. Bob Tutupoli a aussi enregistré des chansons traditionnelles de Molouk, comme par exemple Mande Mande, Le Souli, et puis il a commencé à enregistrer à Jakarta en 1965 avec Petty Bersaudara ou Petty Sisters. L'une des chansons populaires par Bob Tutupoli aux années 70 est Tinggi Gunung Seribu Janji. Maintenant, écoutez une chanson de Tinggi Gunung Seribu Janji.
Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Tinggi gunung seribu janji, lain di bibir, lain di hati. Aku pergi takkan lama, hanya satu hari saja. Seribu tahun tak lama, hanya sekejap saja. Kita akan berjumpa pula. Terbatas kata-kata, tinggi gunung seribu janji, lain di bibir, lain di hati. Aku pergi takkan lama, hanya satu hari saja. Seribu tahun tak lama, hanya sekejap saja. Kita akan berjumpa pula.
Bob Tutupoli ay galamang siyangte ATVRI sa tadi la Televisyon Nasional. La Televisyon e Dotre Angdroa e apre afek enteng tanamal. La leader de band Panjanada, Bob Tutupoli e de plusangplu konu. Pas ke enteng tanamal, fer angvite Bob Tutupoli a angregiste de Sangsong de Noel afek le duo Peti o Kompanyi Remako. Depuis sa, il a commencé être populaire en Indonesie. Bob Tutupoli n'est pas seulement célèbre dans le pays, mais aussi en Malaisie, Singapour et Hong Kong. Dans l'année 1966 jusqu'à 1969, il a remporté le prix de l'émission de Abri, c'est-à-dire la station de militaire. En outre, il a également reçu des disques d'or ou plaque d'or. Bob Tutupoli a également dirigé le groupe des Arts des Moluques dans plusieurs villes aux Pays-Bas en 1985 et 1988. Bon, chers British auditeurs ou chers amis, c'était l'histoire de Bob Tutupoli dans la rubrique La musique de jeudi. Merci de votre attention et fidélité, et avant de terminer, écoutez encore la dernière chanson de Bob Tutupoli, intitulée Kerinduan. Bonne écoute et au revoir.
Di dalam hatiku menangis, bila ku mengenang dirimu sayang. Kini jauh sudah harapan hati, selama ini ku rindu. Oh, tiada belai kasih sayangmu.
ada senyum yang manis lagi. Berat rasalah hatiku kini, tanpa dirimu di sisiku. Jangan kau lupakan diriku, beritaku harap darimu. Tiada belai kasih sayangmu, tiada senyum yang manis lagi. Berat rasalah hatiku kini, tanpa dirimu di sisiku. Oh, kini ku mengenang dirimu, aku gelisah selalu. Jangan kau lupakan beritaku harap darimu. Oh, kini ku mengenang dirimu, aku gelisah selalu. Jangan kau lupakan diriku, beritaku harap.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie. Sur les fréquences ondes courtes, 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Bagaikan malam tak berbintang.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Et chers amis, vous avez écouté tout à l'heure des chansons indonésiennes. Ainsi se termine la mission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta. Ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.